Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 septembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, en Tanzanie, l'attaque du 25 août à Dar es Salaam dans le quartier des ambassades a été menée par un terroriste islamiste d'après la police. Burundi, Reporters sans frontières condamne les attaques répétées du président Evariste Ndayishimiye contre un journaliste. La tempête Aïda sème le chaos aux États-Unis. Au moins 14 personnes sont mortes à New York. La Cour suprême des États-Unis laisse en vigueur une loi du Texas contre l'avortement, devenue presque illégale dans cet État du Sud. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. En Tanzanie, la police a annoncé que l'homme qui a tué 4 personnes avant d'être abattu le 25 août dans le quartier des ambassades de Dar es Salaam était un terroriste islamiste radicalisé sur les réseaux sociaux. Claire Morin-Gibou.
Les investigations policières ont révélé que l'assaillant, Hamza Mohamed, était un terroriste qui s'est radicalisé sur Internet, a déclaré à la presse Camillus Wambura, le directeur des enquêtes criminelles. Hamza Mohamed vivait avec sa mère dans un appartement à environ 2 km du lieu de l'attaque. Omar Issa, un voisin chauffeur de taxi, a témoigné « Je le connaissais depuis qu'il était un jeune garçon, c'était une personne ordinaire, j'ai été vraiment choqué. » Le 25 août, une attaque a eu lieu sur Ali Hassan Miyi Road, la grande avenue de la capitale économique tanzanienne, sur laquelle se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères. 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués et 6 personnes blessées. L'attaque n'a jamais été revendiquée.
Un prêtre camerounais enlevé dimanche par des séparatistes dans le sud-ouest du Cameroun, une des 2 régions anglophones en crise, a été libéré. Monseigneur Julius Abortoko a été libéré sans qu'aucune rançon ne soit payée, a écrit le diocèse de Manfé dans un communiqué. Le vicaire général de la paroisse de Manfé avait été kidnappé dimanche par de jeunes gens qui se sont identifiés comme des combattants séparatistes. Ceux-ci avaient réclamé une rançon de 20 millions de francs CFA, selon le diocèse. 6 policiers kényans ont été inculpés de meurtre aujourd'hui pour la mort de 2 frères après leur arrestation le 1er août dans le centre du pays pour avoir enfreint le couvre-feu en vigueur contre le Covid-19. La mort d'Emmanuel Mutura Ndwiga et Benson Njiru Ndwiga, respectivement âgés de 19 et 22 ans, avait provoqué l'indignation dans le pays et donné lieu à des manifestations dénonçant les brutalités policières. Les 6 policiers et 4 hommes et 2 femmes ont plaidé non coupables à leur comparution devant un tribunal de Nairobi. Ils resteront en détention jusqu'à ce que leur demande de libération conditionnelle soit étudiée le 22 septembre. Reporters sans frontières a condamné les propos graves et dangereux tenus par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, contre un journaliste qui l'accuse de ternir l'image du pays en dressant, selon lui, un sombre tableau de la situation du Covid-19. Le point avec John Lindon.
Le président Evariste Ndayishimiye s'en est pris nommément mardi à Esdras Ndikumana lors d'un discours dans un stade, l'accusant de vouloir détruire le Burundi. Quelqu'un qui passe ses journées et ses nuits à dire que les hôpitaux regorgent de cas de coronavirus, que les gens meurent en masse, n'est-il pas un agent au service de la pauvreté, a déclaré le dirigeant burundais qui avait tenu des propos similaires le 19 août dernier. Nous condamnons ces propos graves et dangereux, triste rappel de la fragilité de la liberté de la presse au Burundi, déclare Arnaud Froget, le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières. RFI a aussi protesté contre ces attaques verbales et ces accusations qualifiées d'infondées et absurdes. L'Union burundaise des journalistes a fait part de sa consternation. Esdras Ndikumana, qui travaille pour RFI et l'AFP, vit en exil en France. En 2016, il avait été accusé par Bujumbura de promouvoir le crime et la violence dans sa couverture.
La région du Tigré en Éthiopie est confrontée à un blocus de facto de l'aide humanitaire qui va encore aggraver la crise en cours, a averti jeudi le coordonnateur humanitaire de l'ONU dans le pays. Le nord de l'Éthiopie est le théâtre de violents combats depuis novembre, lorsque le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités régionales dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré. Pékin condamne toute exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo, a affirmé sur Twitter l'ambassadeur de Chine à Kinshasa, sur fond d'accusations d'activités opaques d'entreprises chinoises en RDC. Début août, un député avait déploré l'anarchie totale causée par la ruée vers l'or et a porté son soutien à des chefs de village qui s'étaient opposés au nouveau maître chinois. Toujours en RDC, des organisations environnementales ont alerté aujourd'hui sur une catastrophe imminente si Kinshasa lève comme prévu un moratoire sur les nouveaux types d'exploitation forestière. Ces ONG, dont Greenpeace et Rainforest, avaient déjà protesté en juillet contre ce projet du gouvernement de lever le moratoire en cours depuis 2002 en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière. La RDC abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après le Brésil, rappelle ses ONG, qui demandent cette fois à la communauté internationale de ne pas rester silencieuse. Le rappeur rwandais Jay Polly est décédé dans des circonstances indéterminées dans un hôpital de Kigali. Jay Polly, de son vrai nom Joshua Tuyishimiye, 33 ans, avait été arrêté en avril avec plusieurs autres personnes à son domicile où se tenait une fête. Le musicien avait assisté mercredi à une audience au tribunal au cours de laquelle la date de son procès pour usage de stupéfiants a été fixée au 2 décembre. La condamnation d'un animateur vedette de la télévision en Côte d'Ivoire à un an de prison avec sursis pour apologie du viol a été saluée ce jeudi comme un premier signal fort par des féministes qui estiment néanmoins qu'il faut aller plus loin. L'animateur Yves de Nbella a également été condamné mercredi en comparution immédiate à 2 millions de francs CFA d'amende et s'est vu signifier l'interdiction de quitter Abidjan. Une pétition réclamant des sanctions a récolté près de 50 000 signatures en 2 jours. 8 pays sur 10 en Afrique risquent de manquer l'objectif de vacciner 10% des groupes les plus vulnérables contre le COVID-19 d'ici fin septembre, a indiqué aujourd'hui le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. 42 sur les 54 pays d'Afrique risquent de ne pas atteindre cet objectif, selon l'OMS.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis a refusé de suspendre une loi du Texas qui interdit d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. Les détails avec Eric Manirakiza.
La haute juridiction invoque des questions de procédure complexes et nouvelles pour laisser la loi en place tant que la bataille judiciaire se poursuit. La Cour suprême n'a pas voulu se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi entrée en vigueur 24 heures plus tôt dans ce vaste État conservateur. Elle a été saisie en urgence par des défenseurs du droit à l'avortement. Sa décision a été prise à une courte majorité de 5 magistrats sur 9, dont 3 ont été choisis par Donald Trump pour leur opposition à l'avortement. Promulguée en mai par le gouverneur républicain Greg Abbott, ce texte interdit l'interruption de toute grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit après environ 6 semaines de grossesse. La loi ne prévoyait pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, mais seulement si la santé de la femme enceinte est en danger. Les républicains avaient promis de faire tomber ce droit et ils ont réussi, a tweeté l'élu démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Dans son arrêt emblématique de 1973, la Cour suprême avait reconnu le droit des femmes à avorter dans tous les États-Unis.
L'ouragan Aida a semé le chaos dans le sud et le nord-est des États-Unis. Les gouverneurs de New York et de New Jersey ont décrété l'état d'urgence. Un dernier bilan fait état d'au moins 14 morts. Jacques Aristide.
Les inondations provoquées par le passage d'Ida ont emporté des voitures, submergé des lignes de métro et cloué les avions au sol. L'état d'urgence décrété par la nouvelle gouverneure de l'état de New York, Kathy Hochul, concerne potentiellement quelques 20 millions d'habitants. Bill de Blasio, le maire de New York, ville déjà meurtrie par la pandémie de Covid-19, a déploré dans un tweet un événement météorologique historique décrétant également l'état d'urgence. D'après le service météo américain, cet état d'urgence en raison d'inondations soudaines est une première dans l'histoire de la mégapole, déjà frappée en octobre 2012 par l'ouragan Sandy. D'impressionnantes tornades et inondations ont également été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland. Dans le New Jersey, l'état d'urgence a également été déclaré par le gouverneur Phil Murphy. Le président Joe Biden se rendra demain en Louisiane où l'ouragan Ida, qui a touché terre dimanche dernier, a détruit de nombreux bâtiments et privé d'électricité plus d'un million de foyers.
Afghanistan, les talibans pourraient annoncer la composition de leur gouvernement juste après la prière demain vendredi, quelques jours seulement après le départ lundi des dernières troupes américaines et la fin d'une guerre de 20 ans. Les Afghans et le monde attendent impatiemment de connaître la composition de ce gouvernement dont les talibans ont maintes fois promis qu'il serait inclusif. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Sénégal, la direction générale de l'aéroport international Blaise Diagne est optimiste. Avec le regain du nombre de voyageurs et de mouvements d'avions, le niveau de trafic pré-Covid devrait être retrouvé dès 2023. Une bonne nouvelle pour Doudouka, directeur général, car le retour aux tendances d'avant-pandémie sera plus rapide que prévu, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse le 31 août, donnée à l'occasion du lancement de la première ligne transpacifique Dakar-New York-Baltimore d'Air Sénégal. Le Cameroun vise une croissance de 4,4% en 2022 grâce à un programme de relance adossé à la stratégie nationale de développement. Le président Paul Biya a donné les grandes orientations de la politique budgétaire dans une circulaire le 31 août. La transformation locale des produits de grande consommation, comme le riz, le maïs ou le sorgho, est encouragée. L'autorité numérique irlandaise a frappé WhatsApp, filiale de Facebook, d'une amende record de 225 millions d'euros pour avoir enfreint la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. C'est la seconde plus grosse amende après celle d'Amazon en juillet au Luxembourg de 746 millions d'euros.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Balle au panier. Pour commencer, la Tunisie accède aux demi-finales de l'Afrobasket Kigali 2021. Les Tunisiens ont dominé le Soudan du Sud 80 à 65. La Tunisie connaîtra son adversaire des demi à l'issue du dernier quart de finale entre le Cap-Vert et l'Ouganda. Hier, le Sénégal a battu l'Angola 79 à 74 et retrouve donc le dernier carré de cette compétition, où il fera face à la Côte d'Ivoire qui a pulvérisé la Guinée en quart 98-50. Football, suite des matchs de la première journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, zone Afrique ce jeudi, la République démocratique du Congo a fait match nul 1-1 face à la Tanzanie à Lubumbashi, 0-0 entre le Kenya et l'Ouganda, à suivre aussi Namibie-Congo, Madagascar-Bénin, Burkina Faso, Niger, l'Algérie joue Djibouti, le Maroc, le Soudan. Hier, match nul 1-1 entre la Centrafrique et le Cap-Vert, même score entre la Guinée-Bissau et la Guinée. Le Sénégal a battu le Togo 2-0, la Libye a eu raison du Gabon 2-1, courte victoire du Mali face au Rwanda 1-0. Pareil pour l'Égypte qui a eu le dernier mot devant l'Angola. Toujours dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, en Europe, le Portugal s'est imposé in extremis face à l'Irlande 2-1 grâce à un doublé historique de Cristiano Ronaldo. La nouvelle recrue de Manchester United dépasse ainsi l'Iranien Ali Daye pour établir un nouveau record mondial de buts en sélection, 111 réalisations. Dans le groupe D, les champions du monde français se sont fait surprendre par la Bosnie 1-1. L'Ukraine aussi a dû se contenter d'un match nul 2-2 au Kazakhstan. Le Danemark est toujours bien installé en tête du groupe F grâce à sa victoire 2-0 face à l'Écosse, 0-0 entre la Russie et la Croatie. La Slovaquie et la Slovénie se sont séparées sur un score nul de 1 but partout. Dans le groupe G, la Turquie n'a pas réussi à battre le Monténégro 2-2, pendant que les Pays-Bas ont fait match nul à Oslo contre la Norvège 1-1. Coup dur pour le Brésil dans la zone Amérique, après avoir dû se passer de 9 joueurs, retenus par leur club anglais, deux nouveaux sélectionnés ont été sommés de rentrer en Russie par leur employeur, le Zénith Saint-Pétersbourg. Le milieu de terrain Claudinho et l'attaquant Malcolm parmi les neuf joueurs appelés en renfort pour pallier à l'absence des 9 Brésiliens évolués en Première Ligue, sont retournés en Russie sous la pression du Zénith, a annoncé la Confédération brésilienne de football. La Seleção prépare finalement les 3 rendez-vous de septembre face au Chili, l'Argentine et le Pérou avec 22 joueurs dont Neymar, libéré par le Paris Saint-Germain avec Marquinhos contre 25 initialement prévus.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, dans une tribune attribuée à Blaise Compaoré par des cadres de son parti, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien président parle de la situation sécuritaire dans son pays. Selon lui, il est temps de taire les querelles et les égaux pour préserver la patrie en très grand danger. Blaise Compaoré appelle à une union sacrée pour vaincre le terrorisme. Yacouba Ouedraogo a joint Paul Miki Rouamba, journaliste éditorialiste à LCA TV à Ouagadougou.
Je pense personnellement que l'ancien président Blaise Compaoré a bel et bien raison d'évoquer justement cette union sacrée. Cela pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que, rappelez-vous, au début justement des attaques terroristes au Burkina, autour de 2015-2016, il y avait malheureusement des accusations mutuelles sur le plan politique. Il y avait des clans politiques qui accusaient d'autres clans politiquement opposés d'être les instigateurs de ces attaques terroristes-là. On a passé malheureusement beaucoup de temps à s'accuser mutuellement, et pour des raisons politiques sans avoir donc gain de cause. Deuxièmement, à l'état où on est avec la lutte contre le terrorisme, on entend bien souvent les forces de défense et de sécurité qui regrettent le fait que les populations, quelquefois victimes des attaques terroristes, ne collaborent pas franchement avec les forces de défense et de sécurité parce qu'elles sont souvent témoins de la présence de groupes terroristes, de groupes djihadistes dans certaines localités et elles ont tendance à les protéger et à ne pas les dénoncer. Donc s'il n'y a pas cette cohésion nationale, on ne peut pas donc vaincre ce terrorisme-là.
Est-ce que vous pensez que ce message va faire écho du côté des autorités notamment?
Je ne pense pas, en tout cas pas publiquement, parce que ce n'est pas la première fois que il y a une telle main tendue. Rappelez-vous, il y a quelques années, Blaise Compaoré avait donc fait part justement de son intention de participer à la lutte contre le terrorisme. C'était une forme de main tendue à laquelle le président Roch-Marc Christian Kabore, qui n'a pas daigné répondre, il a dit simplement qu'il prenait acte. Par contre, c'est un message qui peut faire écho au sein de l'opinion publique. D'ailleurs, ça fait écho déjà puisque le message est largement partagé. Maintenant, sur le plan politique, il ne faut pas s'attendre à ce que, de façon publique, que les autorités actuelles sortent pour dire oui, nous avons entendu le message de Blaise Compaoré et nous prenons telle ou telle mesure.
Faut-il s'attendre bientôt à ce que Blaise Compaoré rentre, malgré les déboires judiciaires qui l'attendent avec notamment l'affaire Thomas Sankara?
Oui, je pense qu'il faut s'attendre à ce que Blaise Compaoré rentre au Burkina Faso pour plusieurs raisons. La première, c'est que lui-même, il est demandeur d'un retour au bercail parce qu'il a dit par personne interposée qu'il souhaiterait donc regagner le Burkina, son pays natal, non pas pour être politiquement actif, mais certainement pour donc se donner une certaine retraite dans sa mère patrie au Burkina. Alors, deuxièmement, il y a des mouvements qui appellent à son retour. Cela se passe sur le plan certainement politique. Il s'agit donc de mouvements de la société civile qui sont proches de lui, Blaise Compaoré, proches de son parti, le CDP. Et ces mouvements souhaiteraient d'ailleurs que l'actuel président du Faso Roch-Marc Christian Kabore organise lui-même ce retour-là dans le cadre de la réconciliation nationale. Il est attendu ici au Burkina autour donc d'un certain nombre de dossiers, notamment celui de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Il y a le dossier également de l'insurrection populaire. Donc, dans tous les cas, je crois que l'ancien président pourrait venir, malgré ses déboires judiciaires, comme vous l'avez dit. Il pourrait passer devant la barre, être jugé comme un citoyen ordinaire. Et puis peut-être, après le procès, on verra quel type d'action mener dans le cadre de la réconciliation. C'est ce que pensent beaucoup de Burkinabés, en tout cas.
Paul Miki Rouamba, journaliste, éditorialiste à LCA TV, à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Lors d'une visite au Cameroun, les autorités nigérianes ont demandé jeudi le retour au Nigeria de plus de 1000 anciens militants de Boko Haram. Des centaines d'anciens combattants se sont rendus au Cameroun depuis la mort d'Aboubacar Shekau au mois de mai. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Maroua, dans le nord du Cameroun. Le récit avec Eric Manirakiza.
Le gouverneur adjoint de l'État de Borno au Nigeria, Omar Ousmane Kadafou, s'est rendu jeudi dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il était à la tête d'une délégation de 14 législateurs, avocats, administrateurs et représentants de groupes de défense des droits humains pour négocier le retour volontaire d'anciens militants nigériens de Boko Haram. Il a rencontré ses déserteurs de Boko Haram au centre de désarmement de Méri, situé près de la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. Il s'est entretenu avec eux en Hausa. Kadir Hassan, 34 ans, s'est échappé en août de la forêt de Sambisa, un bastion de Boko Haram à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.
Des commandants de Boko Haram m'ont trompé en mars de l'année dernière, me disant que je devais quitter Kukawa, une ville de l'état de Borno au Nigeria, pour trouver un emploi. Cependant, lorsque je suis arrivé dans la forêt de Sambisa, on m'a donné une arme à feu au lieu du travail promis. Selon Hassan, depuis la mort du chef du groupe djihadiste Aboubakar Shekau en mai, plusieurs centaines de combattants s'efforcent de s'échapper de la forêt de Sambisa.
Hassan s'est échappé avec 35 autres combattants. Ils se sont rendus à la force multinationale du bassin du lac Tchad qui combat le groupe djihadiste. Cette force est composée de troupes du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Nigeria, les a amenés au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion des DR à Méri. Midjiawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, affirmait que son pays est submergé d'anciens militants depuis la mort de Shekau.
Nous avons plus de 1000 Nigérians ici, tous originaires de l'état de Borno. À la fin de la saison des pluies, ils rentreront chez eux. Nous félicitons le gouverneur Babagana Oumara de l'état de Borno au Nigeria. Il a envoyé une commission ici pour accompagner ces Nigérians dans leur retour chez eux.
Monsieur Bakari a indiqué que sa délégation va enregistrer les anciens militants qui veulent retourner volontairement au Nigeria. Il a par contre précisé que les fortes pluies ont rendu difficile le retour des ex-combattants cette semaine.
Je sais que vos installations sont surchargées. Nous essaierons autant que possible de rapatrier les anciens membres de Boko Haram qui sont rendus sur nos terres au Nigeria afin que le Cameroun puisse disposer d'un espace libre dans les centres de DDR et nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour notre peuple.
En août, le Cameroun a déclaré qu'il négociait le renvoi des ex-militants au Nigeria car les centres de DDR devenaient surpeuplés. Selon les responsables camerounais, ces centres accueillaient les anciens militants originaires du Tchad, du Cameroun et du Nigeria.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le géant chinois des télécommunications Huawei veut former près de 3 millions de jeunes africains dans le secteur du numérique, y compris les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle. Des étudiants nigériens qui ont participé à un concours TIC parrainé par la compagnie affirment que les avantages sont considérables. Certains toutefois que l'influence technologique croissante de la Chine en Afrique pourrait avoir des impacts négatifs. Un reportage de Timothy Obiezu à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
Huawei a lancé le concours GlobalTIC en Afrique il y a 6 ans dans le but de former des professionnels hautement qualifiés. 2000 étudiants africains ont déjà participé à la compétition. En 2019, Mohamed Mayacha et 5 autres étudiants de l'université Amadou Bello dans l'état de Kaduna sont arrivés 3e, devenant la meilleure équipe d'Afrique subsaharienne.
Nous avons été exposés à des appareils et des technologies que nous n'avions jamais connues auparavant. En tant qu'étudiants universitaires ordinaires, nous n'aurions pas vécu ce que nous avons vécu lors de la compétition. Donc cela m'a rendu beaucoup plus enclin au TIC, pour ainsi dire.
Le concours évalue les compétences des étudiants en matière de technologie de réseau et de cloud. Le succès de l'équipe nigériane en 2019 a inspiré d'autres étudiants comme Hamza Atabour.
J'ai été inspiré quand ils ont parlé de leurs histoires, de la façon dont ils ont gagné le concours et aussi quand ils ont reçu leur prix. J'ai alors pensé que c'est quelque chose qui en valait la peine.
Make sacrifice for.
Alors que plusieurs étudiants comme Mohamed et Hamza atteignent l'objectif fixé par l'entreprise chinoise, certains observateurs l'analysent comme une représentation de la présence croissante de la Chine dans le paysage technologique de l'Afrique. Il est rapporté que Huawei représente plus de 70% du réseau de télécommunications du continent. L'expert en TIC Samuel Adekola affirme que la Chine pourrait utiliser son avantage concurrentiel à des fins politiques.
C'est vraiment dangereux, difficile de savoir jusqu'où il pourrait aller, mais avec des données, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'informations sur un groupe de personnes et sur le pays.
Les inquiétudes concernant la présence de la Chine en Afrique ont pris de l'ampleur en 2019 lorsque le Wall Street Journal a rapporté que l'entreprise chinoise avait aidé les autorités ougandaises et zambiennes à espionner leurs opposants, ce que Huawei a toujours nié. Même si de nombreux étudiants acquièrent des compétences à travers ce programme chinois, certains experts estiment que l'Afrique pourrait devoir payer le prix d'une trop grande dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères.
Le secrétaire américain à la défense a été le premier membre de l'administration Biden à répondre aux questions des journalistes depuis la fin de la plus longue guerre des États-Unis menée à l'étranger. Lloyd Austin participait à une conférence de presse hier au Pentagone, aux côtés du chef d'état-major, le général Mark Milley. Comme le rapporte Carla Babb, la correspondante de la VOA au Pentagone, l'Amérique n'a pas complètement fini avec l'Afghanistan. Récit Jacques Aristide.
Fierté, douleur et colère ont été exprimées au Pentagone hier, deux jours après le départ des dernières troupes américaines de l'Afghanistan. Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense.
Nous avons maintenant conclu la plus grande évacuation aérienne de civils dans l'histoire américaine. C'était héroïque.
Pour sa part, le chef d'état-major, le général Mark Milley, admet que ces derniers jours ont été extrêmement difficiles émotionnellement.
La guerre est dure, c'est vicieux, c'est brutal, c'est impitoyable. Et oui, nous ressentons tous la douleur et de la colère. Et quand nous voyons ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années et au cours des 20 derniers jours, cela crée de la douleur et de la colère.
Un responsable du département d'État américain a concédé hier qu'en plus des quelques 100 citoyens américains laissés en Afghanistan, une majorité de demandeurs de visas d'immigrants spéciaux n'avaient pas non plus été évacués. Il s'agit d'Afghans avec leurs familles qui ont aidé les États-Unis. Le général Mark Milley juge possible une éventuelle coordination américaine avec les talibans.
This is a ruthless group.
Il s'agit d'un groupe impitoyable vu son passé. Et il reste à voir s'il va changer ou non. Et en ce qui concerne nos relations avec eux au sujet de cet aérodrome ou au cours de l'année écoulée, en temps de guerre, vous faites ce que vous devez faire pour réduire les risques pour la mission et la force, parce que vous voulez nécessairement faire.
Une possibilité de coordination contre le groupe État islamique au Khorasan.
C'est possible.
Lloyd Austin promet que les États-Unis se vengeront en temps voulu contre cette branche du groupe État islamique en Afghanistan. Ce groupe a tué 13 militaires américains et au moins 170 Afghans lors d'un attentat suicide perpétré près de l'aéroport de Kaboul dans les derniers jours du retrait américain. Cette branche afghane de l'EI est présentée comme l'ennemi juré des talibans. Mais la Maison-Blanche rejette pour l'heure toute alliance hâtive avec les nouveaux maîtres de Kaboul. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Les États-Unis ne se précipitent pas pour les reconnaître. Idem pour tout autre pays du monde avec lequel nous avons parlé. Cela dépendra beaucoup de leur comportement et de leur capacité à répondre aux attentes de la communauté internationale.
Ces attentes comprennent le départ des Américains toujours en Afghanistan, de même que des Afghans en danger, sans oublier le respect des droits des femmes, des minorités et des journalistes.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Il est